RTL Original Podcast. La route des vins du Luxembourg.
Bonjour Daniel.
Oui, bonjour Mathieu.
Comment vas-tu Daniel?
Mais bien, bien. On est tellement ravis de venir à Luxembourg. Tu sais, quand avec Bénédicte, la directrice que tu connais bien, on a décidé de créer ce salon, je ne connaissais pas le Luxembourg. Je ne connaissais pas les Luxembourgeois, il y avait un petit jeu de hasard. Je savais que l'économie locale n'était pas trop mauvaise.
Plutôt florissante,
donc ça fait partie de mes choix. Mais c'est, comme tous les choix, ça se décide en 10 secondes. Donc voilà, et après l'histoire fait que, ce qu'on vient de rappeler, 19 ans de présence ici, en fait 20 ans, parce qu'il y a eu le Covid. Et donc on est toujours ravis d'arriver ici, complètement.
Daniel Mouty, toi tu représentes hein, ces vignerons indépendants, donc pas seulement de Bordeaux, hein, c'est également Nouvelle-Aquitaine. Hein.
Oui, alors la région Nouvelle-Aquitaine, ça c'est la politique française, s'est agrandie, c'est la plus grande région de France, elle va des Pyrénées Atlantiques, enfin des Pyrénées, jusqu'au Haut-Poitou. Alors le Haut-Poitou c'est pratiquement la Loire, et ça englobe surtout des terroirs connus magnifiques. Donc tu pars du sud, on va pas refaire tout le détail, mais tu as déjà les vins des Pyrénées, l'Irou-les-Guy, les Jurançons, on remonte dans les Landes, à la limite des Landes et du Gers, il y a l'Armagnac. Et ensuite on arrive en Gironde, voilà, il y a une panoplie incroyable qui est bien représentée ici, mais le Lot-et-Garonne, avec les vins de Buzet, avec tout un tas d'appellations intéressantes aussi, des vignerons très, très purs et durs là. Et puis après, on arrive plus au nord, on a la Dordogne avec les monts Basillac et tout ça. Et il y a juste au-dessus les Charentes, le Cognac a intégré le salon des vignerons indépendants. Depuis pas si longtemps que ça, avant, on n'avait pas le Cognac. Et là, Bénédicte nous amène une carte qui est assez significative de cette immense région qu'est la Nouvelle-Aquitaine. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce salon, nous gérons tous les vignerons indépendants de cette Nouvelle-Aquitaine. Ça veut dire que quand on installe le salon ici, il y a une offre, il y a un panel, il y a un choix qui est très très vaste et qui se suffit à lui-même, sans aller chercher tous les vins de France, qui se suffit à lui-même pour faire une offre que les Luxembourgeois apprécient beaucoup.
C'est bien vu, hein, justement, le fait de mettre une grande carte comme ça à disposition des visiteurs, parce que les visiteurs sont attachés à cette notion de terroir. Hein. On a envie de se rapprocher comme ça du vigneron de plus en plus.
Mais ça, c'est très très important. C'est peut-être ce que tu viens de dire le plus important. C'est que nous, il y a 35 ans ou 40 ans, on a implanté, on a créé même les vignerons indépendants, localement, puis regroupés de France. Et on a l'impression qu'à l'époque, on était avant-gardiste ou pas, j'en sais rien, qu'on a un peu réinventé les circuits courts, réinventé ce qu'on appelle en France le locavore. Ça veut dire je consomme des produits que j'achète directement à ceux qui le produisent et je le rencontre. Tu sais que j'imagine les gens, quand ils ont un repas chez eux de famille ou avec des amis, ils sortent une bouteille de vin, ils disaient en plus c'est un ami, ils en rajoutent un peu, c'est un ami le vigneron, on ne boit pas n'importe quoi ici, il est comme ça et comme ça, et donc il y a cette espèce d'identité qui fait vraiment, vraiment partie, c'est le cœur de notre ADN ici au vigneron indépendant. En fait, pour faire simple, c'est pas nous qui choisissons, c'est les clients qui vont acheter où ils l'entendent, ici à Luxembourg, ils peuvent aller acheter, je ne vais pas faire de publicité, ils peuvent aller acheter à Auchan, ils peuvent aller acheter à Cora, mais ils peuvent venir ici à Luxexpo, où ils vont rencontrer 39 vignerons issus de toutes les appellations de Nouvelle-Aquitaine. Et là, il y aura un vrai contact. Et puis, il y a quand même une différence, ça m'a toujours un peu sidéré. Si je vais dans un grand magasin, je ne cite plus les noms, et que je suis devant une vitrine, devant des gondoles, là, j'ai quoi comme possibilité de choisir? J'ai l'étiquette et le prix. Moi, perso, ça ne me suffit pas, parce que ici, la clé, et d'ailleurs la preuve, on est encerclé de verre là, c'est que tous les visiteurs qui rentrent dans ce salon, le premier geste que l'on fait, c'est leur offrir un verre. C'est leur verre. Ça nous a bien servi dans les périodes un peu fragiles en contamination. Ils ont leur verre, et ils se promènent chez les vignerons, à droite, à gauche. Les vignerons n'ont pas, c'est bien toute la différence, non pas cette façon de faire de pression commerciale, tellement fier de faire goûter, et les visiteurs, ils se promènent, ils décident, Il dit, tiens, on a préféré celui-là et celui-là. Sauf que le critère de choix, c'est pas le même, c'est pas que le visuel. Ils en ont deux de plus. Ils ont la sympathie du vigneron et le vin dans le verre. Ils disent, ça me plaît, ça correspond à ce que je cherche. Et ils achètent, bien ici. Le salon est petit, 39 stands, c'est très, très, très confortable, on va dire. Mais trois semi-remorques de palettes sont arrivées sur le site avant-hier, qu'on a mis dans les réserves, qu'on voit un peu partout. Et ça, ils ne vont pas repartir en Nouvelle-Aquitaine, ils vont repartir sur les caddies, dans les coffres de voiture de nos visiteurs, parce qu'ici, les visiteurs, ils achètent. Mais quel bonheur! Et nous, on est là pour contribuer au plaisir, et surtout avec cette façon d'accueillir, de faire goûter. Les gens qui viennent ici une fois, c'est fini, ils reviennent. Faut attention à l'addiction, hein. Quand on vient une fois, on reviendra.
Et il y a le bonheur aussi pour vous, en tant que vigneron, de raconter des histoires à ces visiteurs, ouais. Parce que ça ne se limite pas, on ne débat pas que autour d'un verre de vin ou du produit en lui-même.
Tu sais, moi qui les fréquente depuis fort longtemps, il y a deux catégories de vignerons. Il y a celui qui est replié sur lui-même, qui fait son vin, qui est introverti, on va dire, enfin, etc. Et puis il y a les autres. Et moi, au sein de la Fédération des vignerons indépendants d'Aquitaine, je suis avec les autres, ceux qui ont envie de passer, parce que là, ils ont tous le sourire, de passer 4 jours et demi ici à Lux Expo pour rencontrer des gens, faire goûter. Mais quand on arrive le matin, on est comme ça, le sourire, en disant aujourd'hui, on va rencontrer plein d'amis, plein de bons vivants luxembourgeois et qui vont venir faire leurs achats. 3 semi-remorques, mon cher ami. Dans une semi-remorque, il rentre 35 palettes, hein. Palettes de 600 bouteilles. Hein. Donc ça fait 100 palettes de 600 bouteilles. Ça fait beaucoup de bouteilles. 60 000. Pas mal.
Il y a les bouteilles, mais il y a aussi ce qui gravite autour. Hein. Comme on le sait, le vin, c'est un produit de convivialité. On a l'occasion aussi de manger un petit morceau, de découvrir des spécialités qui sont propres à votre région.
On a toujours pensé que d'abord, venir goûter du vin, c'est bien. Mais si on peut se retourner et prendre un petit toast ou prendre un petit sandwich de foie gras, de magret, etc., c'était mieux. Et puis c'est pareil, c'est le même esprit. C'est nous, c'est ma directrice Bénédicte qui sélectionne les artisans qui sont là et ils sont dans le même esprit. Ça veut dire, le monsieur qui a là son banc, là, ben, il est conserveur, il élève les canards, il les tue, il fait des conserves, il est en Dordogne. Et pareil, des fromages du Pays Basque.
Là, on a des superbes jambons. Là.
Le gars qui vend des jambons, c'est quelqu'un que je connais fort bien. Il a des jambons extraordinaires. Certains coûtent un peu cher, mais parce que ça vient de Port-Noir, qui va chez lui-même sélectionner en Espagne. Des Port-Noir élevés avec des glands et tout ça, le Bellota, c'est des jambons extraordinaires. Il les fait goûter, il y a tout ce schéma qui fait que ce salon, il vaut vraiment la peine. Tous ceux qui ont un peu regardé la presse ou qui sont déjà venus au salon, tous reçoivent des invitations gratuites. Et puis, je ne sais pas, à l'entrée, en fait, ce qui nous coûte, nous, un peu, c'est qu'on offre un verre peut-être une bouteille d'eau, je ne sais plus. Mais l'entrée, c'est 5 ou 6 euros, quoi.
Qu'est-ce que tu conseilles pour des gens qui ne connaissent pas ce salon? Puisque là, on a l'avantage de pouvoir diffuser vraiment en tout début de salon. Les gens vont le découvrir à travers ce podcast et vont pouvoir s'y rendre ce week-end. Est-ce qu'il y a un ordre particulier à respecter au niveau de la cartographie ou au niveau des vins en eux-mêmes?
Non. Alors, mon cher ami, je ne me garderai bien de dire aller chez un tel et chez un tel, à part chez moi, non, je plaisante. Parce que je vais me faire scalper, là, parce que moi je suis censé être leur représentant, créer des actions commerciales comme on le fait ici, mais surtout pas être partisan. Non, alors je vais te répondre, mais c'est vraiment une réponse. Si tu gardes les cognacs et les armagnacs pour la fin de la dégustation,
ça a du sens.
Pas mal, ça a du sens. Après, moi je vais toujours dans l'ordre un peu hiérarchique d'un repas. Ici, il y a beaucoup de blancs, et le blanc est en train de fortement se développer. Et les Luxembourgeois, ils en produisent, sont très amateurs de blancs, parce que dans les blancs, il n'y a pas que le Pinot Gris luxembourgeois, et autres cépages assez proches de l'Alsace. Mais ici, il y a des Sauvignons, il y a des Sémillons, des Muscadelles, des cépages de chez nous, des Pacherinques, que l'on découvre. Et puis après, les vins rouges, c'est les grands classiques. Dans les vins rouges, honnêtement, Mathieu, pour simplifier, il y a deux grandes catégories. Et c'est important. Il y en a une qui est en train de gagner du terrain. Il y a celle que l'on va acheter aujourd'hui, la caisse ou les caisses, et qu'on va pouvoir commencer à boire, pourquoi pas la semaine prochaine. C'est-à-dire des vins de toutes les régions viticoles de la Nouvelle-Aquitaine, qui sont plutôt sur un modèle un peu léger, des tanins agréables, sur la finesse, sur les saveurs, sur des trucs qui sont plus tendance aujourd'hui. Et puis, c'est un peu notre cas aussi, des vins de garde, mais où on fait très attention aux tanins. Tu sais, les tanins d'autrefois, où il fallait 10 ans avant d'ouvrir la première bouteille, parce que sinon il fallait se tenir au bord de la table, tellement on avait fait d'extraction tannique, on y fait très attention. Donc ici, dans les vins rouges, on a des vins qui peuvent être achetés et bus entre une semaine et 20 ans, quoi. Et plus, quelquefois, on n'en parle pas. Moi, ce que je crois, et ça, on sait le dire à nos clients, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres outils de distribution, c'est qu'il y a l'influence du millésime. Il y a des millésimes extrêmement corsés, charnus. 2022, millésime précoce, il y a eu un ensoleillement colossal. L'année des incendies chez nous, dans les forêts, où on a eu un été caniculaire, où on a vendangé, moi, Daniel Mouti, avec tous mes collègues, pour la première fois fin août. Hallucinant, jamais...
Un truc incroyable.
Donc, des vins solaires qui ont eu vraiment profité. Il y a beaucoup de 2022 ici, parce que les vins de 2022 ont été mis en bouteille à N plus 2, c'est-à-dire en 2024, ce printemps. Et ils sont là aujourd'hui. Là, par contre, il ne faut pas se louper. Là. Même si vous évitez, si vous hésitez à venir, vous qui écoutez cette radio, dites-vous bien que 2022, il faut faire le déplacement. Il faut venir les goûter. C'est magnifique. Millésime du siècle, on en a des fois un peu trop parlé. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a vraiment des années qui sont au-dessus de la moyenne. C'est le cas de 2022. Ainsi que 23, d'autres, plus anciens. Moi, en ce moment, je bois des 2019. Tout ça, ça va bien. Puis les vignerons sont tellement attachés à leur c'est un peu le sens de l'honneur, à leur qualité, que quand on arrive ici et qu'ils amènent les caisses, ce qu'on va découvrir dans les caisses, c'est bon. Sinon, ça le fait pas, hein. Le luxembourgeois, il est attentif, il est gourmet, mais il n'achète pas n'importe quoi. C'est ici qu'il faut venir faire sa sélection. Et puis, il n'y a pas besoin de gros budgets. Gros budgets, on les adore. Mais je citais un exemple l'autre jour en disant un jeune étudiant qui arrive avec un billet de 20 euros, il peut passer une heure et demie dans le salon à discuter avec des vignerons à goûter et partir avec une bouteille dans son sachet qu'il aura sélectionné, il aura dépensé 20 euros. Il y a tous les budgets. Et surtout, cette liberté d'achat, c'est aussi un des grands thèmes. Ça veut dire, je viens là, je peux acheter une bouteille, 3, 6, 60, ce qu'on veut. Quand vous venez à la foire de Luxembourg, à la foire de mai, vous avez des commerciaux redoutables, ils sont très bien, ils font leur job. Hein. Mais c'est par 36 minimum. Le vigneron, il ne sait pas faire ça. Il est simple, il est cool, il n'est pas forcément très doué en commerce. Il vend ce que le visiteur veut acheter. Donc on ne vous force pas la main, rien, mais vous, luxembourgeois, vous craquez quand même assez souvent.
Et cette évolution, justement, de se rapprocher au plus près du vigneron, est-ce qu'aujourd'hui, il y a peut-être un espoir qu'un jour, le vin, alors je ne vais pas dire qu'on ne le trouvera plus dans les grandes surfaces, mais où finalement, le vin, ce sera chez le vigneron ou par le biais des salons, comme ça?
En tout cas, le ratio, les chiffres vont dans ce sens. La grande distribution, elle participe à la distribution de nos vins, et il en faut. Mais petit à petit, les gens réalisent que, un, les bouteilles de la grande distribution, où il y a des combats de prix, les petites bouteilles avec les petits prix, personne n'en veut, parce qu'on n'a pas confiance et on a raison. Et en plus, économiquement, ces bouteilles-là, tout le monde perd, donc ça n'a pas d'avenir. Donc la tendance, oui, moi je vois dans ma boîte, aujourd'hui, 70% de ce que nous produisons, et nous en produisons pas mal, on a un grand vignoble, on fait 300 000 bouteilles. 70 à 80%, on les vend en direct. Alors pour nous c'est très bien parce que c'est atomiser la vente, ça veut dire la sécuriser, et puis maintenir des marges normales pour pouvoir être là l'an prochain et continuer de faire perdurer notre vignoble. Parce qu'il y a ça aussi.
Merci beaucoup Daniel Mouti de nous avoir présenté ce salon des vignerons indépendants, des vins de Bordeaux, de Nouvelle-Aquitaine. On invite évidemment tous les luxembourgeois et frontaliers à se rendre ici à Lux Expo. Vous êtes là jusqu'à...
On est là jusqu'à dimanche à 18h. Et après, on n'ouvre pas très tôt le matin parce que les Luxembourgeois sont tous au travail. On ouvre à 11h et après c'est 21h, 20h, suivant les soirs, il faut regarder les invitations. Sachez que les invitations, on peut les trouver un peu partout. Hein. Il suffit de taper Salon des vignerons indépendants. On va bien trouver une invitation à télécharger qui traîne par là. On fait tout pour que vous, Luxembourgeois, vous puissiez venir décontracter et on vous accueillera.
La route des vins du Luxembourg.